16h-17h, chacun son tour, avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
Allez, aujourd'hui un nouveau numéro de chacun son tour et on commence comme d'habitude avec le chef Enzem. Bonjour Nabil, comment vas-tu?
Bonjour Manu, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bon Ramadan, j'espère que ça se passe, les recettes se passent, que le jeûne se passe bien. Pour ma part, ça se passe très bien, c'est un mois que j'adore, c'est un mois qui me rappelle mon enfance.
Et puis on a des retours hein, sur toutes les recettes qu'on vous donne, vous nous envoyez plein de messages, à Nabil, à moi-même. Et ça nous fait très plaisir, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux du chef Enzem, hein, comme ça se prononce, chef Enzem.
Bah, exactement, ou Nabil Zemouri, voilà. C'est... D'ailleurs, je suis toujours en pleine hésitation.
Moi, vous m'écrivez sur Instagram, mariani.manuel.
Oui, Manuel Mariani, exactement. Manuel, parce que c'est vrai qu'on parle peu de toi, mais tu n'es pas que ici, tu fais aussi beaucoup de dégustations, tu es un critique gastronomique.
C'est
donc
ça.
C'est bien aussi pour ça que j'aime bien parler cuisine avec toi pendant ce Ramadan.
Ouais, voilà. Absolument, bah la radio c'est la récré pour moi, j'adore ça.
Ouais. Non mais tu fais aussi de très belles reviews sur les plats étoilés ou non, tu fais la table de pas mal de restaurants en France et c'est une belle critique. On a déjà manger ensemble sur un restaurant étoilé ensemble.
Qui a perdu son étoile.
On a fait un étoilé ensemble. Moi, j'étais parti sur tout ce qui était poisson et toi, t'étais parti sur tout ce qui était viande.
Exactement. Ouais. On avait écumé la carte.
Voilà. Et moi, j'avais pris toutes les spécialités de poisson. J'avais pas pu goûter la viande, mais tu m'avais dit que c'était très bon. Bah, et c'est vrai qu'on s'était régalé.
J'attends avec impatience qu'on retourne au restaurant ensemble. Mais le problème, c'est que t'as un agenda de ministre maintenant.
On va se faire ça bien. Il y a tellement de choses à faire. Déjà, je vais t'emmener avec moi à Groot.
Ah, bah oui, on va aller manger les tourtes chez Albano Vray.
Et Hugo, le gagnant Top Chef.
Ouais. Voilà. Des tourtes en mode street food.
Ouais.
Bon. Alors, aujourd'hui, je suis content parce qu'on va voyager. Tu sais que j'adore les cuisines du monde. Hein. Et là, tu vas nous emmener un petit peu en Asie, hein, plus précisément en Corée, avec un poulet frit à la coréenne.
C'est ça, exactement.
Est-ce qu'on s'aventure
à le prononcer?
On s'est beaucoup amusé à prononcer ce nom-là, hein, parce que effectivement en coréen, donc ça s'appelle, je te laisse commencer, en coréen, on appelle ça du...
Dak Gongjong.
Ah ben, pas mal.
Bah oui.
Bah, quand je dis, on dirait que je dis Gangnam Style.
Gangnam Style.
Voilà, donc aujourd'hui, recette du Dak Gongjong, ce fameux poulet frit à la coréenne. Alors, plus facile hein, en japonais, karage.
Karage, c'est le poulet frit à la japonaise. Et Dak Gongjong, c'est le poulet frit à la coréenne. Là, on part sur la Corée parce que la Corée a la cote en ce moment. Les tteokbokki, la cuisine coréenne, c'est quand même pas mal en ce moment avec les dramas coréens. Et
ah,
tout
bah
ça.
C'est clair.
La K-pop, exactement. Mais ça fait un petit moment là, hein, que la Corée est à la mode, hein, c'est pas récent. Et voilà, donc on commence à sortir un petit peu des cuisines, des recettes un peu orientales. Je l'avais annoncé hein, qu'on allait faire de quoi de petit temps en temps.
On est ravis de voyager. Hein.
Voilà. Bon, avant de donner la recette, je vais lancer mon jingle et puis on est parti sur quelque chose de très gourmand.
Ah bah quand tu veux.
Les recettes de la flemme du chef Enzem.
Bon les amis, on a de la chance parce que... Ah oui, et puis la musique continue, eh oui.
Bah oui, ça s'appelle Abed, hein. Ça continue un petit peu.
Ouais, quand je parle, j'adore, c'est toi qui as fait ça?
Non.
C'est Foudil.
Oui, c'est moi qui ai joué la basse, Foudil faisait de la trompette.
Ah, Foudil derrière, bravo Foudil, merci Foudil.
Foudil qui réalise cette émission.
Bon les amis qui nous écoutez, cette recette, elle est très très simple. Et là, on rentre clairement dans les recettes typiques. Je rentre le soir, il est 18h, enfin à 18h50, c'est l'heure du ftour, ou à 19h, selon les régions où on est en France.
Selon les jours aussi.
Et les jours, bien évidemment. Et là, c'est très très simple parce que d'une part, vous allez demander à votre boucher de vous préparer des cuisses. Les cuisses de poulet, il va les désosser lui-même. Donc vous demandez à votre boucher de le faire.
Ça, on peut le faire aussi. Hein,
on peut le faire, ouais, mais alors, Manu, par expérience, nous, ça va, nous sommes cuisiniers. Je sais que par expérience, ceux qui s'attellent, s'ils n'ont pas le bon couteau, s'ils n'ont pas le bon geste, ils restent la moitié de la chair et surtout ils mettent un temps fou à désosser une cuisse.
Oui, ou alors ils mettent le cartilage avec.
Exactement. Vaut mieux laisser ça à un boucher, il vous fait ça.
Demandez au boucher.
Si vous avez par contre désossé la cuisse, vous le faites bien évidemment à la maison sans vouloir sous-estimer qui que ce soit. Mais je sais que ceux qui n'ont pas l'habitude vont perdre un temps énorme à désosser 4-5 cuisses, c'est énorme.
Et alors on va dire pourquoi les hautes cuisses et pas du filet justement?
La tendreté.
Ben oui.
La tendreté, le filet est beaucoup trop sec.
Parce que là, on va frire.
On va frire.
Et c'est vrai que si on frit du filet, ça devient assez sec. Hein.
Exactement. Alors, on a nos cuisses qui sont désossées. On en a 5. On est pour 4 personnes. Hein. On en a 5 à peu près. 4-5, allez. Ce que je vais vous demander de faire, on ne retire pas la peau. On va portionner, c'est-à-dire couper ces cuisses. Mais on ne va pas les couper en petits dés ni en gros dés. On va les couper quand même... Quelque chose d'assez... voilà, il faut compter, aller comme si vous pensiez... Qu'est-ce que je pourrais vous dire niveau proportion? Bah, c'est comme si on devait la croquer en 2-3 bouchées max. Pas en une bouchée, quoi. D'accord.
Ouais, c'est un demi-haut de cuisse, par exemple. Voilà, ça fait 2-3 bouchées, quoi.
Exactement. Ouais. Donc, par contre, on est cuit, on coupe régulièrement. Parce que sinon, pas d'homogénéité au niveau de la cuisson. Donc, on coupe de manière.
Ouais, certains morceaux vont être plus cuits, d'autres moins cuits.
Exactement. Donc, c'est pas intéressant. Après, ça arrive que moi aussi, j'ai des morceaux plus grands. Hein. C'est normal. La cuisse n'est pas faite de manière parfaite. Mais on commencera, voilà. Donc, ça, c'est fait. Ce que je vous demande de faire également, c'est très léger, mais vous allez, une fois portionné, mettre un petit peu de citron ou un petit peu de vinaigre dans de l'eau et vous allez y plonger vos cuisses. C'est juste histoire de les nettoyer parce qu'on garde la peau.
Ouais, puis pour les dégorger un petit peu, ouais, c'est ça.
Exactement, pas longtemps, hein, parce que sinon ça va prendre le goût citronné et puis le poulet va se gorger d'eau, ça va avoir un goût de flotte, c'est pas terrible. Mais vraiment, c'est histoire de désinfecter un petit peu. Donc on les prend parce que là on garde la peau. Je sais que vous n'avez pas tous acheté des volailles de Bresse ou des volailles Label Rouge, donc forcément, on va pas avoir de la volaille de chez nos amis les jumeaux, moi, à qui je passe le bonjour, les copains, les jumeaux. Mais je sais que tout le monde n'aura pas forcément la volaille la plus qualitative. Donc on trempe ça un petit peu dans l'eau citronnée, c'est toujours bien pour désinfecter.
Alors j'ai un petit truc, moi, c'est si on a une volaille entière et qu'on veut effectivement la nettoyer un petit peu, le truc c'est de prendre un demi-citron et de mettre du gros sel dessus et on frotte.
Et c'est parfait.
Et on frotte la volaille avec ça va l'assaisonner et ça va la nettoyer un petit peu, puis enlever ce goût un petit peu, parfois un petit peu faisandé de la peau, quoi.
Très très bonne technique, effectivement. Bon, on peut faire les deux, allez, c'est quoi, ceux qui nous écoutent, faites les deux.
Mais faut garder la peau parce que c'est quand même le meilleur.
Et dernière astuce, vous n'êtes pas obligé, mais si vous avez un chalumeau, n'hésitez pas à passer un petit coup de plume, un petit coup de chalumeau sur la peau, il peut y rester
quelques
poils récalcitrants. Voilà, ça
on est tous les deux barbus là, donc.
Ouais, exactement. Non, voilà, si vous avez un petit coup de chalumeau, pap, sur la peau, attention, cuisez pas la peau, hein, non plus. Hein.
Oui,
donc,
voilà. ça fait éclater après les.
Exactement, vous faites vraiment au loin et puis c'est bon. Bon, on a fini pour la partie hygiène. Bon, là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, ces cuisses, on va les faire mariner. Vous prenez un petit morceau de gingembre frais, idéalement. Pareil avec de l'ail, donc un pouce de gingembre. Une gousse d'ail de la même équivalence que le morceau de gingembre et un petit peu de sel. Je vais pas vous dire.
Ça, on fait quoi? On le râpe, l'ail et le gingembre?
Exactement, vraiment en purée, ouais, voilà, bien râpé ou alors écrasé.
Au pilon,
ouais. Exactement. Donc tout ça, on va mettre ça sur nos morceaux de poulet, d'accord? Et on laisse ça au frais, tout simplement, pour l'instant, rien de compliqué.
Au frais, à couvert.
Au frais, voilà, vous filmez, tout ça. Je vais dire quelque chose, mais ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Les Coréens mettent du glutamate au lieu du sel à ce moment-là. Les Japonais, ouais, pareil. Mais ça a pas bonne presse, le glutamate.
Oui, et puis il y a des gens qui sont allergiques au glutamate.
D'accord.
Donc, c'est le monosodium de glutamate, je crois, le nom exact.
Ça
donne certaines allergies, mais c'est vrai que ça.
Il y a un côté umami.
Il y a un côté umami, mais ça donne un peu le même goût à tout, quoi. C'est comme la sauce arôme, magie, là.
C'est vrai. Donc, voilà. Moi, je vous dis comment ça se passe en Corée, mais vous pouvez mettre du sel. D'accord? On oublie le glutamate. C'est juste pour l'information, d'accord. Une fois que vous avez mis du sel, n'hésitez pas à sucrer légèrement aussi si vous voulez la jouer à la coréenne. Moi, je le ferai pas, mais vous pouvez vraiment la faire traditionnelle coréenne, sel, sucre. Et ensuite, vous laissez mariner au frais. Pas besoin de laisser ça toute la nuit, vous laissez le temps de préparer la petite sauce. La sauce, justement, nous y voici. Donc, ça, c'est vraiment, selon les recettes, on en trouve un petit peu différentes partout. Moi, je vais vous donner ma recette personnelle, mais qui est très inspirée à 99% de la recette traditionnelle. Donc, dans un bol, une cuillère à soupe, vous savez, de cette sauce pas sriracha, mais chili thaï, vous savez, la sauce chili, pimentée.
Un peu salé sucré, ouais.
Ouais, soit pimentée, soit douce, c'est vous qui voyez. Donc, une cuillère à soupe, une cuillère à soupe de ketchup, une cuillère à soupe de gochujang. On commence à s'éparpiller.
Ça, c'est une pâte de piment, mais pas trop pimentée.
C'est de la pâte de piment coréen. Et alors là, effectivement, si vous voulez faire un bon poulet coréen, il vous faut cette pâte. D'habitude, je vous dis, bon, on peut remplacer.
Ça, on le trouve dans les supermarchés asiatiques.
Exactement. Ça se trouve.
Épicerie fine.
Partout. Si vous voulez faire un truc vraiment authentique, il vous faut ce gochujang. Pareil, donc une cuillère à soupe, une cuillère à soupe de miel. Donc voilà, pour l'instant, rien de compliqué. Vous mettez une cuillère à soupe d'huile de sésame. Toujours rien de compliqué, c'est toujours des cuillères à soupe, hein, pour l'instant, facile. On retourne sur une gousse d'ail, on retourne sur une un morceau de gingembre, et cette fois on passe sur deux cuillères à soupe de sauce soja.
D'accord,
pas sucré puisqu'on a le miel. Sauce soja salée, sauce soja sucrée, c'est une invention.
Sauce soja sucrée, ça n'existe pas.
C'est une invention française. C'est une invention française. Donc, et on termine, si vous le voulez bien, si vous avez chez vous un petit peu d'acidité. Ça peut être le jus de citron, ça peut être du vinaigre de riz, ça peut être du vinaigre de riz noir, mais il faut y mettre une petite cuillère à café. C'est histoire de casser un petit peu toute cette salaison, cette salinité, cette sucrosité. Donc ça, c'est très bien. C'est pas obligatoire, mais je vous le dis. Est-ce que je récapitule, cher Manu, pour
allez,
les gens qui nous écoutent?
Oui, on a le temps.
Donc on y retourne. Une cuillère à soupe de sauce chili ou sriracha, c'est vous qui voyez, c'est pas obligatoire. Une cuillère à soupe de ketchup, une cuillère à soupe de gochujang, pâte de piment coréen, une cuillère à soupe de miel, une cuillère à soupe d'huile de sésame, une gousse d'ail et deux cuillères à soupe de sauce soja. Et on termine par l'acidité, soit d'un vinaigre, soit d'un agrume. D'accord? Ça va dans le bol, dans une casserole, pardon, le tout, et on va chauffer très très légèrement. Très
oui,
légèrement.
Faut pas que ça boue, hein.
Surtout pas.
La sauce soja, quand ça boue, ça devient vraiment pas bon après. Oui.
Vous savez pourquoi on chauffe? C'est juste pour amalgamer tous les produits, faire fondre le miel et que tout fasse quelque chose d'homogène. C'est tout simple. Donc, il n'y a pas besoin d'amener d'ébullition. On chauffe et on met de côté. C'est déjà prêt. Je vais vous demander ensuite pour le poulet de le sortir du réfrigérateur et de le mettre dans soit de la farine, soit dans un mélange farine de riz, farine. Soit dans un mélange fécule de pommes de terre, farine, mais en tout cas vous faites des temps pour temps. C'est-à-dire que si vous utilisez la farine avec une fécule ou une farine de riz, faites temps pour temps. C'est pas compliqué. Si j'ai une tasse de farine normale, je mets une tasse de fécule de pommes de terre ou une tasse de maïzena ou une tasse de farine de riz. D'accord? Sinon vous faites que farine. Pas compliqué. Bon.
Simple.
Simple. Mais par contre, il faut que ça rentre absolument dans toutes les parties du poulet, des morceaux. C'est-à-dire que
donc
quand
on va masser bien.
On masse bien la farine, exactement, parce que ça va être notre seul élément de panure. Il n'y aura pas de panko, il n'y aura pas d'eau gazeuse, il n'y aura pas d'œuf. Donc on y passe chaque morceau un par un, méticuleusement, et on appuie, on fait bien pénétrer la farine. Jusque-là, simple. Donc dès que tous nos morceaux sont imbibés, on tapote un peu, il ne faut pas non plus qu'il y ait une surcouche de farine.
Ça va bien tenir, comme ils ont été marinés, ça va être humide, c'est donc ça. Ça va bien tenir.
Naturellement,
il ne faut pas hésiter à mettre bien de la farine.
Exactement.
Quoi,
hein. Par contre, on tapote après, histoire d'enlever les excédents. On ne veut pas non plus que ça se retrouve dans la friture, ça serait quand même malheureux. Et une fois que c'est fait, c'est parti. On n'a plus qu'à frire. Hein, c'est pas très compliqué. On va frire en deux cuissons. On va faire.
Ah, comme les frites.
Exactement. On va faire une première cuisson à 140 degrés. Ça va durer quelques minutes, histoire de faire adhérer la panure. Ça va dorer légèrement. On laisse reposer et au moment du ftour, on n'a plus qu'à passer ça 1 à 2 minutes dans une huile à 180 degrés. Donc, vous pré-cuisez, vous faites pré-frire tous vos morceaux à 140 degrés à peu près. Attention à pas mettre tout d'un coup parce que qu'est-ce qui va se passer si vous mettez tous vos morceaux à 140 degrés? Vous allez faire baisser la température de l'huile à 110 degrés parce que vous avez des éléments qui sont du froid.
Ça va pas cuire.
Et ensuite, ça va bouillir votre poulet. C'est horrible. D'accord?
Une petite question, Nabil, c'est si on veut faire un truc un peu plus huilsy, est-ce qu'on peut faire la pré-cuisson à l'huile et on termine la cuisson au four?
C'est pas top.
C'est pas top.
Vous pouvez le faire au air fryer à la limite.
Pour les briques, ça va, mais là pour le...
Ouais. Il faut quand même une certaine friture, quand même, parce que là on est parti sur quelque chose.
Si on veut avoir le vrai croustillant fondant.
C'est surtout qu'après tout ça passe dans notre sauce. C'est-à-dire qu'une fois le deuxième bain de cuisson à 180 degrés fait, tout de suite avant de passer à table, vous avez votre sauce qui a été prête juste avant qu'elle ait été chauffée.
Ouais.
Vous mélangez tout, ça va imbiber, ça va donner un rouge vif mais exceptionnel.
Et ça va rester croustillant.
Par contre, on consomme tout de suite. Donc c'est vraiment avant de passer au four, on a fait sa petite salade, on est revenu pour manger et là on peut commencer à frire et mettre ça dans le
voilà. Oui, mettez pas la sauce une demi-heure avant parce que là vous allez manger des éponges.
Exactement. Et pour accompagner ça, Manu, j'incite vraiment à manger ça non pas avec un riz thaï, non pas avec un riz basmati, mais un riz à sushi. Je le sais.
Oui, c'est du riz qui est un peu rond et légèrement vinaigré.
Et ben moi, chez de nombreux Coréens et amis restaurateurs coréens, on est plus sur ce type de riz. D'accord?
Ouais, c'est très bon, c'est très
un riz
bon.
À sushi.
Et, voilà. Et puis suivez bien les instructions de cuisson pour ces riz-là parce que il faut que les grains se détachent.
Exactement.
Pas que soit compact.
Un peu de sésame et c'est parti. Bonne dégustation.
Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle recette du chef Enzem. Et puis dans un instant, on se retrouve avec notre invité du jour et nos influenceurs.
Chacun son tour revient dans un instant. 16h, 17h, chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans chacun son tour après cette belle recette du chef Enzem qui nous a emmené en Corée. Alors on s'est amusé tout à l'heure avec nos invités et nos chroniqueurs à essayer de prononcer le plat du poulet frit à la coréenne, le dakgangjang, et comme c'était pas concluant, on vous le dira pas.
tes souhaits, Manu.
Merci. Alors, vous venez d'entendre la voix d'Oumout, hein, un nouveau dans la team. Hein. Oumout qui sévit sur Instagram sous le nom de le-8u92.
Avec c'est ça.
Plein de vidéos gourmandes, puisque comme vous le savez, chacun son tour, c'est l'émission qui vous met un appétit avant l'heure de la rupture du jeûne, hein, pour les gens qui jeûnent. Aujourd'hui, on est ravis de l'avoir encore cette année, puisque bon, vous êtes nombreux à le connaître déjà. C'est Adam Sedik, le fondateur de la maison Azalée.
Ben, merci à vous. Merci.
Salut. Bonjour, Adam. Manu. Comment ça va?
Ça va, la forme?
Impeccable.
Toujours
impeccable.
Un plaisir d'être là.
Impeccable. Et donc, on va vous parler pâtisserie. Hein. Si Adam est là, forcément, on parle pâtisserie. Et puis, Oumout va nous parler de deux adresses en dernière partie d'émission. On va voyager un peu en Belgique et en Thaïlande.
C'est ça, dans le Nord, la Belgique, l'Hollande, toute voilà. Cette région-là.
Pourquoi tu es ch'ti, Oumout?
Non, pas du tout. Moi, je suis d'origine turque, mais l'adresse que je vais vous présenter, elle vient du Nord.
Alors, je pense que les auditeurs, quand j'ai prononcé ton prénom, ont compris.
Oui, je pense aussi.
Hein, il y a plus de tréma que de lettres dans ton dans ton prénom. Donc, on t'avait géolocalisé. Ouais. En tous les cas, c'est original, Oumout, comme prénom. Déjà, on va parler donc de Maison Azalée. Alors, Adam Sedik, c'est un pâtissier qu'on connaît bien. Il s'est illustré notamment en ayant gagné le concours IDF du Île-de-France du meilleur éclair en 2022. Enfin, non, alors Adam, lui, quand il gagne un concours, il arrive premier et son apprenti second.
C'est ça.
Hein, donc, il trust, s'il avait eu un deuxième apprenti, il aurait eu les trois premières
places.
Dommage,
j'ai pas inscrit tous mes apprentis.
Ouais, non, puis je crois que c'est limité à deux personnes par maison.
C'était
hein,
deux
concours.
Personnes, oui, voilà. Ça dépend des concours.
Mais c'est bien concours, d'arriver là, aux deux premières places. Ça veut dire que ton apprenti, il est arrivé devant des pros, quoi.
Non, il est arrivé devant moi, carrément aussi.
Ah, il est arrivé devant toi, c'est
exactement.
Vrai, mais oui. On l'avait pas dit l'année dernière.
C'est ça, je l'ai mieux coaché que
par
je me suis coaché
pour
moi-même.
Toi.
En tout cas, ils ont mis tout le monde d'accord.
Voilà, c'est flatteur.
Il a tellement passé de temps à coacher son apprenti qu'il a pas eu le temps de travailler son éclair à lui. C'est ça.
Exactement.
Ouais, alors, ben justement, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir pâtissier?
Ben écoute, moi, j'ai un parcours atypique parce que je suis de base un autodidacte. Donc, j'ai commencé j'ai eu mon bac, un bac scientifique, voilà, pour faire plaisir aux parents, toujours.
Ah, ça plaît aux parents.
Ça hein. Plaît aux parents. Mmh. Donc, on m'a obligé, je voulais faire de la pâtisserie depuis bien, bien avant. Et donc, après mon bac, j'ai fait des petits boulots, donc à droite, à gauche. Et je me levais chaque matin en me disant mais pourquoi je me lève. Et un jour un matin j'ai dit tu sais quoi, je vais revenir à mes premiers amours, donc la cuisine et la pâtisserie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me relancer dans la pâtisserie. Donc j'ai fait beaucoup de sacrifices, une année vraiment difficile entre le travail, la formation, voilà, gérer tout ça. Et en fin de compte j'ai réussi après beaucoup d'efforts à devenir pâtissier. Donc j'ai commencé dans une petite maison, Moulin du Lac, à Enghien-les-Bains.
Et, une maison, petite maison, mais qui est réputée dans le coin. Ouais.
Oui, une petite maison, mais très belle maison. Et donc j'ai commencé là-bas, ils m'ont laissé ma chance. J'ai fait quelques concours avec eux aussi, où j'ai remporté quelques places. Donc après, j'ai refait mes armes au Moulin de Chessy en tant que chef pâtissier. Mmh. Après ça, je me suis lancé moi-même en faisant des petits desserts à maison. Et en faisant mes petits desserts, mon associé a goûté mes desserts. Et lui qui avait fondé, le vrai fondateur de Maison Azalée, eh ben, m'a contacté en me proposant ce projet-là. Donc moi, j'ai foncé directement sur l'opportunité. Il m'a proposé une magnifique opportunité. Donc j'ai foncé dedans. Et aujourd'hui, ben, avec mon associé, Monsieur H, on travaille main dans la main pour...
Monsieur H, qui a tenu à rester anonyme.
Monsieur H, voilà, c'est la zone d'ombre de Maison Azalée.
Ouais, ouais.
Donc voilà, et donc avec Monsieur H, on développe Maison Azalée à deux. Et on fait du super boulot, hein, vous le voyez très bien.
Alors on a compris, c'est pas une pâtisserie comme les autres. Selon toi, qu'est-ce qui rend la maison Azalée qu'est-ce qui la rend unique, cette pâtisserie?
Ben en fait, tout vient du nom Azalée. En fait, l'Azalée, c'est une fleur. Il faut savoir que l'Azalée, c'est une fleur. Et quand elle pousse en général, la floraison de l'Azalée, elle est très généreuse. Donc nous, on a voulu mettre la générosité au centre de notre pâtisserie. Donc tous nos produits, vous allez voir qu'il y a une touche de générosité, que ce soit dans la gourmandise, dans le praliné, voilà, on fait pas les choses à moitié. Donc c'est ce qui nous qualifie le mieux, on va dire, c'est l'azalé, donc la générosité.
Alors ok, on voit, on comprend mieux ton approche en matière de pâtisserie. Maintenant, quelles sont tes sources d'inspiration? Parce qu'il y a beaucoup de créations maison, tu fais des classiques évidemment en pâtisserie, mais il y a aussi des créations maison. Quelles sont tes sources d'inspiration? C'est quoi? C'est la nature? C'est un produit qui t'inspire? C'est un souvenir?
Moi j'ai pas mal d'inspiration. Déjà Instagram, aujourd'hui la modernité c'est Instagram, donc j'avais pas mal de chefs qui m'inspiraient, notamment Karim Bourgi, Monsieur Pierre Hermé, donc voilà. Les grands chefs classiques. Après, ma première source d'inspiration, c'était ma maman, donc à qui je faisais mes premiers gâteaux.
Oh, voilà. Mignon, ça.
Les gâteaux avec les pots de yaourt, là,
voilà,
c'est ça.
Les pots de yaourt. Tu viens, tu vas lécher, t'as vu là, le bol, tu vois. Ouais. Ta maman, elle tape dans les doigts, non, c'est cru.
Maman,
non.
Je peux lécher la cuillère. Avec les œufs crus, les mamans, elles aiment pas ça.
Voilà, elles aiment pas ça, c'est ça, exactement. Donc voilà, c'est la première source d'inspiration. Après, il y avait la touche orientale. Donc j'essaye de, dans certaines de mes pâtisseries françaises, parce que moi, faut savoir que je fais de la pâtisserie fine française. J'essaye dans certaines, pour pas être clivant, de mettre une petite touche orientale. Dans d'autres, je mets une touche de gourmandise. Voilà, c'est.
J'ai justement, c'est intéressant que tu dis ça parce que, bon, t'es d'origine algérienne, t'es venu en France quand tu avais 6 ans. Mais aujourd'hui, on va dire que t'as un pied en Algérie, un pied en France parce que t'as une part de culture française aussi.
Bien sûr.
T'as grandi pas mal.
J'ai grandi en France.
Comment la culture algérienne, et notamment en termes de pâtisserie, t'as une culture franco-française à la base sur la pâtisserie. Comment est-ce que ta culture culinaire algérienne elle influence tes créations justement? Comment ça se passe le process?
Faut savoir que bon, moi j'ai grandi en France, donc voilà, mes pâtisseries de base, c'est mon parcours, c'est franco-français, c'est vraiment 100% Made in France. Et le Made in France, c'est le meilleur parcours culinaire, parmi les meilleurs parcours culinaires.
Cocorico, on peut dire.
Voilà, cocorico. Mais par contre, voilà, j'ai quelques souvenirs. La fleur d'oranger, par exemple, je fais une tartelette pistache fleur d'oranger. Avec mes souvenirs, ma mère, elle faisait des petites oranges avec un peu de fleur d'oranger, du sucre et de la cannelle. Voilà, cette fleur de ce
ouais,
goût de fleur.
La petite salade d'orange. Comme
voilà, ou même c'était de la grenade avec un peu de sucre et de la fleur d'oranger.
La salade d'orange, on mange ça beaucoup dans l'est, dans l'est algérien, dans l'ouest algérien. Pardon,
dans l'ouest, ouais. Moi, je suis d'Oran. Exactement.
Voilà. La salade d'orange. On la retrouve au Maroc aussi d'ailleurs. Hein,
exactement, voilà, dans le Maghreb, dans tout le Maghreb.
Ouais, ouais.
Après, l'eau de rose, par exemple, je fais une pâtisserie, l'azalé, donc, qui représente Maison Azalé. En fait, c'est une pâtisserie à base de une mousse framboise avec un cœur litchi et de l'eau de rose, juste subtilement pour relever le litchi et la framboise.
D'accord. Alors tu parles pas mal d'ingrédients. Hein, t'as cité la fleur d'oranger, t'as cité l'eau de rose. Quel est ton processus et l'attachement que tu as pour la sélection des matières premières, des ingrédients, et comment est-ce que ça influence la qualité de tes créations? Parce que c'est vrai qu'une même recette, mais avec des ingrédients de qualité différente, ça peut changer du tout au tout, quoi.
Exactement. En fait, la fleur d'oranger, il y a plusieurs fournisseurs de fleurs d'oranger. Selon le fournisseur que tu vas avoir, l'eau de fleur d'oranger, elle aura plus ou moins un goût différent. Moi, je travaille aussi souvent avec Younes de Spixa. C'est un passionné de produits d'origine, d'origine pure. Donc voilà, on utilise une fleur d'oranger d'origine pure parmi les meilleures du secteur.
Des produits vertueux et bien élevés, comme on dit.
On essaie au maximum
pour la viande.
Je pense que les produits de la Maison Azalé, c'est vraiment une force.
Ouais, toi, parce que toi, tu connais effectivement bien la Maison Azalé.
Exactement. Bah, vu que je teste les adresses en Île-de-France, la Maison Azalé, pour moi, est une des meilleures pâtisseries qui vient de chez nous. Donc, elle est basée à Gennevilliers et tout fraîchement à Juvisy. Si je dis pas de bêtises, c'est bien exactement. Ça, Adam.
Exactement,
Juvisy. Et pour avoir testé donc plusieurs pâtisseries, parmi même les plus grandes, hein, Pierre Hermé, Philippe Contitini, etc., je dirais que la tarte à la vanille de Adam, elle s'assoit à la table de.
Ouais. D'ailleurs, il y a une photo de la tarte à la vanille sur Instagram quelque part, ou c'est peut-être sur ton compte à toi.
Je pense que c'est celle de Adam. Ouais.
La tarte vanille que je propose, ça s'est beaucoup inspiré de Monsieur Hermé, bien sûr.
Ouais. Tu as des mentors comme ça parmi les pâtissiers?
Oui,
Hermé,
de base,
Michalak,
voilà,
ou
c'est
d'autres.
Ça. J'avais Monsieur Karim Bourgi, un Libanais qui a fait ses armes en France, notamment dans les grandes maisons.
Oui, qui rayonne à l'international maintenant.
Là, qui rayonne exactement, voilà, dans. À l'international, comme tu dis. Donc voilà, j'ai pas mal de chefs comme ça qui m'inspirent.
D'accord, ça c'est, bah, c'est une bonne chose. Alors quel est ton bon on... ah oui parce que on parlait de tes premières et deuxièmes places au meilleur éclair d'Île-de-France en 2022, mais depuis
il y a eu du nouveau
parce que là tu es deuxième meilleure pâtisserie des Hauts-de-Seine.
Des Hauts-de-Seine, voilà, j'ai participé à un concours donc créer une pâtisserie, il fallait imaginer une pâtisserie, donc j'ai fait une pâtisserie à base de poire, d'amandes et de caramel à la poire. Donc c'était ça le sujet, un caramel agrémenté. Donc j'ai créé un caramel spécial, un caramel qui a le goût de la poire. Et donc avec cette création, je suis arrivé deuxième. Je la propose à Gennevilliers dans le 92, mais je la propose aussi dans le 91 à Juvisy-sur-Orge sur la N7.
Bon, c'est un joli message en tous les cas, hein, pour tous les gens, pour tous les haters, hein, qui disent que l'immigration, il y a toujours des problèmes d'intégration. Et ben Oumout qui vient d'Algérie, Adam qui vient d'Algérie, c'est la deuxième meilleure pâtisserie française, voilà, entre guillemets, des Hauts-de-Seine. Bon, et puis l'éclair au chocolat aussi, meilleur éclair au chocolat,
français, voilà,
de France.
En fait, le Made in France, comme franchement, voilà, on allie les deux. Voilà, franchement, je remercie.
Et puis les Tunisiens qui ont la meilleure baguette aussi.
Exactement. Enfin,
voilà, bon.
Ouais, t'as ramené quelques échantillons,
oui, oui.
Manu. Donc,
on va filmer ça, on va filmer la déguste.
Moi, c'est ce que je trouve beau, en fait, notamment dans la pâtisserie, c'est que le savoir-faire français réunit le monde. Donc, le savoir-faire français, la pâtisserie française, on regarde ni ta couleur, ni ta religion, ni ton âge, ni ton sexe. Donc, peu importe, moi, j'ai bossé avec de toutes les origines, on est tous alliés autour de la pâtisserie.
Ouais. Alors si tu devais, parmi tous tes produits, hein, parce que tu as une offre quand même, bon c'est vrai qu'on peut aller sur l'Instagram, hein, déjà si vous voulez avoir les deux adresses à Juvisy et Gennevilliers, vous allez sur l'Instagram maison.azalé et E à la fin, sans accent, hein, ou sur maisonazalé.com, et vous avez les deux adresses, vous avez plein de jolies photos, allez-y maintenant, vous allez voir, ça va vous mettre en appétit pour tout à l'heure. Hein. si parmi ces nombreuses créations, si tu devais garder, ça va être dur ma question, hein.
Allez,
si tu devais garder un produit, un seul, allez, qui représenterait vraiment la maison Azalé et ton ADN à toi.
Bah là, ta question elle est très très difficile.
Je sais.
Là, je me suis pas du tout préparé à ça.
C'est pour ça que je te la pose.
Donc non, moi si je devais retenir quelque chose, une des choses que je retiendrai, c'est l'éclair au chocolat. C'est ce qui m'a permis de vraiment péter dans la pâtisserie française et de me faire un nom parce que j'ai remporté ce prix-là. Après moi j'ai ma petite pâtisserie sous-côté que j'aime énormément, je l'ai faite en création dans ma première boîte et quand je l'ai créée, cette pâtisserie elle était extraordinaire, elle est très sous-côtée, c'est le café gourmand, en fait c'est une mousse café, d'accord, avec un café un pur arabica, quelque chose de super puissant mais ultra doux, en
bien
fait.
Rond, ouais.
On enlève, voilà, sans amertume,
rond, ouais.
Voilà. Et avec un crémeux coulant, en fait quand tu l'ouvres c'est super coulant de spéculoos.
J'allais être méchant avec Oumout, j'allais dire c'est pas amer comme un café à la turque.
Ah oui, exactement.
Très bon café turc.
D'ailleurs j'en ai bu un il y a quelques jours et j'ai dû couper avec du lait alors que je bois du sans sucre moi de base.
Moi j'attends que le moment où tu parles du biscuit de ce gâteau là.
Ah voilà, et pour finir, voilà, la touche émotion de ce gâteau là, c'est le biscuit, c'est un sablé reconstitué avec de la fleur de sel. En fait t'as trop de douceur, fallait quelque chose qui casse toute cette douceur, donc il fallait du croquant, du croustillant.
Ouais, et qui donne un peu de mâche. Ouais.
Voilà. Et donc la fleur de sel, elle donne du goût aussi au café.
Donc un contraste de saveur et un contraste de texture. C'est le plus important, effectivement,
voilà,
quand on mange.
Là, il m'a eu, là, ce soir, c'est Maison Azalé.
C'est ça.
Tu m'en mets de l'autre côté, Adam.
Avec plaisir.
Mais c'est clair, de toute façon, quand on termine l'émission, en général, les gens, ils ont leur menu, ils savent ce qu'ils vont cuisiner avec le chef Enzem, ils savent où ils vont aller manger, etc. Bon,
là, vous avez le dessert aujourd'hui.
En plus, pendant Ramadan, je crois que t'es ouvert la nuit, c'est ça?
Exactement. Alors, durant ce mois, des horaires spéciaux pour tout le monde. Donc, sur la boutique de Juvisy-sur-Orge et de Gennevilliers, on ferme à 23h. Donc, là, ça vous
22h30 mardi au jeudi, hein. 10h30.
22h30, on dépasse jusqu'à 23h. Donc,
le vendredi, c'est avec coupure. Ouais, elle est petite à coupure, une heure, hein. 10h30, 13h et 14h, 23h. Le samedi, 10h, 23h. Et le dimanche, 10h, 20h. Donc, si vous loupez les horaires d'ouverture de la maison Azalé, c'est que vous n'êtes pas très bon, les gars.
Hein. Non. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'excuse pour venir chez nous. On est ouvert jusqu'à très tard.
Voilà, et puis Juvisy dans le sud, Gennevilliers plus dans le nord.
Il y en a pour tout le monde.
Bon. Et puis alors pour tous nos auditeurs qui sont parisien. Oui, c'est peut-être pas juste à côté, Juvisy ou Gennevilliers, mais ça vaut le déplacement quand même. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas.
Faut bien échanger les rôles. En général, en banlieue, on se déplace pour Paris, sur Paris, pour manger des bonnes choses.
Ben voilà, pourquoi
pas. Faut que les Parisiens se déplacent aussi en banlieue pour venir goûter des nouvelles choses.
L'inverse est plus rare.
Non, mais surtout la nuit, comme ça, ouvrir jusqu'à 23h, je trouve que c'est intéressant. Ça change des crêpes nocturnes, etc. Ouais. On va chez Maison Azalée, une bonne pâtisserie.
En fait, cela dit, hier soir, tu m'as envoyé une petite vidéo. Oui. Toi, tu étais
à la friterie
de Vitry. Hein.
C'est ça, comme si tu étais à la menthe.
Il faut savoir, juste à la boutique de Juvisy, on a un très très grand espace. On a 50 places assises. Donc ça laisse le choix de venir en famille.
Oui, on peut manger sur place. T'es le Angelina du 9-2.
Voilà,
c'est ça,
avec des nouvelles boissons chaudes. Ouais. En plus, on propose une nouvelle gamme. Donc il y en a pour tous les goûts.
Alors comme on l'a vu, t'as une gamme très variée de produits, des pâtisseries classiques, des créations plus originales. Comment est-ce que t'assures l'équilibre entre tradition et innovation, justement?
En fait, faut trouver le juste équilibre pour pas être clivant. En fait, si tu vas trop d'un côté ou d'un autre, tu vas rentrer dans la clivance. Donc je fais beaucoup de tests et je fais goûter au maximum de personnes et je fais des sondages et voilà, et je travaille comme ça.
Ok, alors tu as un service traiteur et événements. Comment tu t'adaptes aux différentes demandes comme les mariages, les événements d'entreprise?
En fait, ce que je fais en boutique en miniature, je peux le faire en miniature, en petit four, d'accord, à partager, et aussi en pièce montée. Donc selon les demandes des clients, moi je m'adapte.
À une pièce montée de la Maison Azalée, ça donne envie de se remarier, ça.
Bah marions-nous.
Moi, je rassure ma femme, si elle écoute, je parlais de me remarier avec elle, hein, pas avec une autre.
Moi
hein,
je me désavoue.
Bon, et alors on a vu que ton apprenti est arrivé. Bon, attends, on va faire une pause parce que là il y a Faudil qui me fait des grands signes, hein, il me fait les gros yeux, Faudil. On va faire une petite pause et on va reparler de la Maison Azalée tout de suite après. Et puis Oumout nous parlera de deux adresses très gourmandes également. À tout de suite dans Chacun son tour.
16h, 17h, Chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM. 16h, 17h, Chacun son tour avec Manuel Mariani sur Beurre FM.
De retour dans Chacun son tour avec notre invité du jour, la Maison Azalée, Adam Selick. Et ses célèbres éclairs. Alors juste avant la pause, Adam, oui, puis avec Oumout également, influenceur food, qui va nous parler de bonnes petites adresses. Mais on va revenir deux minutes sur Adam et la maison Azalée. Bon, on avait parlé du fait que effectivement ton apprenti au championnat au concours du meilleur éclair 2022, il était arrivé premier, toi deuxième. Donc et tu le prends bien, tu dis c'est une fierté pour moi qu'il soit arrivé.
Oui.
Moi. Bah, puis de toute façon, c'est la Maison Azalée qui a gagné.
Je te dis la vérité, c'était une stratégie pour le motiver encore plus, tu
mais
vois.
Oui. Mais je me doute bien.
Sinon, je serais arrivé premier, tu vois.
Ça fait rire au mot de ce que tu viens de dire, mais bon. C'est pas gentil, au
mot. Faut pousser les jeunes.
Et très fort, Adam.
Ouais, mais justement, alors, puisque tu fais appel à des apprentis et autres, c'est-à-dire quelle importance t'accordes à la formation et au développement des compétences au sein de ton équipe?
Ben écoute, moi c'est bien que tu poses cette question. Je mets en avant cet aspect. J'aime bien mettre en avant cet aspect. Le savoir-faire français, on me l'a donné. D'accord. Je suis parti le chercher.
Ouais, c'est une histoire de transmission. Tu transmets ce qu'on t'a transmis.
Exactement. Ouais. Donc moi j'aime beaucoup transmettre. Tu vois par exemple ma recette du meilleur éclair de France, il est dans un classeur au plein milieu du labo et le classeur se balade partout. Donc peu importe qui l'apprend ou pas,
tes recettes te survivront.
Elles me survivront et voilà. Après c'est un savoir-faire qu'on va donner. Donc tu peux avoir une recette, avoir 10 personnes qui la font et avoir 10 résultats différents. Donc tout est dans le savoir-faire. Moi je transmets beaucoup, j'ai beaucoup d'apprentis. J'ai une petite jeune actuellement qui est très très motivée. Je vais recruter encore pour la rentrée. Donc j'aime énormément transmettre.
Alors les jeunes, souvent ça bouillonne d'idées, bon parfois un peu saugrenu, mais souvent parfois aussi pas mal, parfois génial même. Toi, est-ce que tu impliques ton équipe et tes collaborateurs dans le processus créatif? Est-ce que même parfois ça t'est arrivé de mettre à la carte des créations dont l'idée venait d'un... Alors il y a Oumout qui
doit intervenir là-dessus. Oui, j'aimerais juste intervenir sur le côté transmission, parce que Adam, il a aussi un centre de formation.
Exactement. Oui. C'est exact.
Ça va vraiment loin.
Très, très bon rebond. On a un centre de formation. Alors, je t'explique. Moi qui aime transmettre, d'accord, je me disais, il y a des centres de formation qui transmettent d'une façon différente. Et moi, j'acceptais pas trop.
Qui apprennent les techniques de base, mais pas forcément le savoir-faire.
Voilà, il y en a qui apprennent un savoir-faire, mais ils ont leur méthode. Mais je me suis dit, attends, moi qui suis passé par une réorientation, moi qui ai été un passionné, j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne de cette façon-là. Donc, je me suis dit quoi avec monsieur H, toujours, on va faire un centre de formation où on va donner tous les secrets. De tous nos secrets de pâtisserie et le secret de Maison Azalée. Et on l'a appelé comment ? Au secret d'Azalée. Donc voilà.
D'accord.
C'est le nom de notre centre de formation. Et chaque week-end.
Ça dit bien son nom.
Bah voilà, chaque week-end, on fait appel à de nouveaux chefs, à des chefs reconnus dans le métier et qui viennent, eux, dévoiler leurs secrets dans nos centres de formation.
Alors justement, quel conseil tu donnerais à un jeune qui aimerait devenir pâtissier ou à un jeune professionnel qui est déjà dans une pâtisserie mais qui voudrait. Bah, se mettre à son compte. Il y a
je donnerai un conseil très important de passer par au secret d'Azalée déjà. Ça, c'est le premier conseil.
D'accord.
Donc, sur le site internet maisonazalée.com, hein, vous avez toutes les informations.
Non, bah écoute, le conseil que je donnerais, c'est de faire beaucoup d'entreprises, d'aller dans le vif du sujet. Il y a la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Donc vraiment aller dans le pratique et de faire un maximum de pratique en entreprise pour acquérir un maximum d'expérience. Dans chaque entreprise, même si tu as 20 ans, 30 ans d'expérience, tu vas apprendre un nouveau tips, une nouvelle astuce. Et ce qui est beau dans la pâtisserie, c'est que tu ne finis pas d'apprendre.
D'accord. Chez Azalée, tu as des options adaptées aux besoins spécifiques, comme les pâtisseries sans gluten, vegan ou index glycémique bas. Il y a des choses qui s'adaptent.
Au mois d'avril, je fais appel, on en parle, à une formatrice qui est spécialisée.
Tu ne parles pas de halal, parce qu'évidemment, toutes tes pâtisseries sont halal.
Oui, bon, après, voilà, c'est pâtisserie halal, c'est comme du lait halal.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est tout est relatif. Mais on va faire une formation sur l'indice glycémique bas.
Non, mais tu sais qu'il y a des pâtissiers qui mettent du Saint-Loup dans les croissants, hein, donc attention.
Oui, bon, de moins en moins, ou une gélatine de porc aussi.
Ouais.
Non, nous, on utilise exclusivement de la gélatine de poisson et de l'agar-agar aussi.
Donc, l'agar-agar, c'est bien. Oui,
voilà,
c'est
pour avoir un maximum de personnes.
Les algues, hein, l'agar-agar, pour les auditeurs qui ne connaissent pas.
Et donc, on va faire une formation en indice glycémique bas et on va mettre un produit en indice glycémique bas.
D'accord.
Pour les diabétiques.
Bon, ça, vous suivez, hein, vous vous abonnez à maison.azalée sur Instagram, et comme ça, vous suivez les infos. J'avais une question, puisque bon, ça n'aura échappé à personne. C'est le Ramadan. C'est le Ramadan, ça ne fait que débuter. Est-ce que tu as des créations spéciales pour le Ramadan? Est-ce qu'il y a des.
Très bonne
des
question. Alors, pendant le Ramadan, ce mois-ci, on a mis en place une nouvelle pâtisserie. D'accord, à la Barclawar revisitée. Alors je t'explique, c'est facteur.
Oui, alors tu anticipes une de mes questions puisque je voulais te demander si tu avais des projets et tu m'as parlé de baklava quand on préparait
l'émission.
En fait,
voilà. Ça c'est un produit que j'ai mis spécialement pour le Ramadan. Je t'explique, Fater, des fabuleuses baklava.
Ouais.
C'est un passionné, un pâtissier,
un génie
voilà de la pâtisserie, et c'est un passionné. Il kiffe ce qu'il fait.
Et c'est Umut, hein, parce qu'en Turquie on sait ce que c'est que le baklava. Hein.
Ah oui, on était parti chez Fater quand il avait son lieu physique là.
Un Algérien,
mais je laisse Adam continuer sur.
Il est un peu one two three, hein, Adam.
Oui, oui, oui. Non, moi je suis vive la France, cocorico, mais one two three aussi quand même. Voilà, j'ai les deux cultures, donc j'en suis fier des deux.
Bien sûr,
deux cultures. Je te disais.
Mais tu le défends bien en plus.
Hein. Je le défends bien. Mm. Voilà, on essaye en tout cas. Et comme je te disais, voilà, Fater, un passionné, il parle avec les tripes quand tu entends parler de ses baklawa. Il y croit de son produit. Il a ouvert une boutique dans le 14e et il était mal placé. Et la communauté qui visait n'était pas la communauté adéquate à ce produit-là. Donc, Fateh a malheureusement dû fermer sa boutique. Et moi, pendant que je recrutais un pâtissier, j'ai vu son CV. Et quand je l'ai appelé, j'ai dit, mais attends, t'as fermé les fabuleuses baklawa? Il m'a dit, oui, j'ai fermé. Malheureusement, voilà, mon projet n'a pas abouti. J'ai dit, tu sais quoi?
Mais tu as fait avec lui quelque part ce que Monsieur H a fait avec toi.
Exact. Plus ou moins.
Voilà.
Plus ou moins différemment, mais voilà, oui, en fait, sûr. Je me suis reconnu en Fateh dans le jeune entrepreneur qui ouvre sa boîte, qui met ses tripes et que, voilà, malheureusement, son produit, il a pas fonctionné. Donc, quand je l'ai vu, j'ai dit, attends, moi, j'aurais bien aimé avoir une seconde chance ou avoir un trampoline. Donc, mon maison Azalée, c'est ce trampoline pour les fabuleuses baklava.
Ok, super. Bon, alors, si vous voulez plus d'infos là-dessus, hein, on vous a donné le site internet maisonazalé.com ou maison.azalé sur Instagram. Et on va passer à Oumout parce qu'il faut qu'il nous parle de deux adresses et il est déjà 16h49. On est en direct, hein, évidemment, pendant tout le ramadan avec vous sur Beurre FM. Et alors, pour commencer, Oumout, tu vas nous parler d'une friterie, mais alors pas la friterie bas de gamme qui sent le graillon. C'est une vraie friterie comme dans le nord.
Voilà, exactement. Donc c'est le projet de Samir, un jeune de la ville, donc de Vitry-sur-Seine, qui a ramené un concept du nord, hein, ouais.
D'ailleurs, ça s'appelle une friterie à Vitry.
Voilà, une friterie à Vitry. Donc Samir, c'est un ancien libraire. Donc c'est pas quelqu'un qui est du milieu, mais c'est un grand passionné de la pomme de terre. Donc c'est quelqu'un qui aime les produits.
Il a la patate.
Samir, on peut dire qu'il a la patate. Donc il a ramené ce concept en Île-de-France. En Île-de-France, je pense pas qu'il y a énormément de friteries. Donc c'est une des rares friteries qui propose, on va dire, de la qualité. Au niveau de la frite, il ramène
ouais, produits frais, cuisinés maison.
Il ramène de la pomme de terre, la meilleure variété, c'est la binch hollandaise.
Ah bah pour la frite, c'est de la binch.
Ah
hein,
oui, donc c'est de la double cuisson dans de la graisse de bœuf halal.
Ouais.
Double cuisson et tous les matins, Samir il va à Rungis. Donc il va rencontrer les artisans, les producteurs local et il ramène donc du fromage de qualité. On va avoir
des fricadelles de volaille.
Voilà, il y a du fromage de chez toi, de Corse.
Du fromage corse, voilà. Ça c'est bien.
Il y a du gouda d'Hollande. On dit même qu'il fait des go fast de gouda. Donc il va en Hollande et il ramène du gouda affiné 12-36 mois.
Oui, il attache beaucoup d'importance au sourcing et c'est vrai que quand on regarde les avis sur la friterie à Vitry etc, on voit des gens qui se plaignent. Du fait que quand ils arrivent tard, y a des produits qui manquent. Mais excusez-moi, hein, je dis ça aux gens qui mettent des avis sans réfléchir. Quand on fait de la cuisine maison, quand il y en a plus, il y en a plus. Il suffit pas d'ouvrir une boîte ou d'ouvrir le congélo. Quand c'est des produits frais, quand on vous dit il y en a plus, hein, alors que c'est à la carte, c'est au contraire plutôt un bon signe. Évidemment, dans un food truck, hein, on n'a pas 50 frigos, donc on a une quantité de produits illimités. Et moi, c'est vrai que ça m'a choqué de voir des gens qui critiquaient le fait qu'à 22h, y avait plus de buns pour les burgers ou de trucs comme ça.
C'est la frustration du client. On comprend aussi.
Voilà, mais de là à aller afficher un commerçant, même un artisan, je dirais, qui fait des produits frais, cuisinés maison sur le web, je trouve ça complètement stupide. Donc je voulais le préciser.
Tu as raison. Et en plus de ça, quand tu regardes la clientèle de Samir, c'est à 80%, on va dire, des jeunes de banlieue. Et j'ai déjà parlé avec lui et je lui ai dit, franchement, Samir, je salue ce que tu fais parce que tu permets de nous ramener des produits qu'on n'aura pas forcément l'occasion de goûter.
Ouais, il y a exemple, des fricadelles de volaille aussi.
Il y a des fricadelles, il fait du roast beef, il fait de la cecina, de la rosette. Enfin, il ramène vraiment des charcuteries de qualité et aussi des alternatives véganes ou végétariennes. Donc il va ramener du saucisson de thon de la maison Lucas. Enfin, c'est vraiment des produits haut de gamme, très originaux et tout ça à moindre coût.
Oui, c'est parce que c'est vrai, des vrais prix street food, hein. Parce que c'est vrai qu'il y a une ou deux friteries vraiment à la belge, hein, ou à la ch'ti à Paris. Et je sais pas quel prix ils payent les pommes de terre, mais à mon avis ils font de la marge, hein, parce que quand on voit le prix des cornets de frites à 7 €,
ça fait peur. Il est à 3,50 € sur le cornet de frites d'une qualité exceptionnelle. Et en plus de ça, vous pouvez suivre sur Snapchat donc une friterie à Vitry où tous les matins il va ranger. Je l'ai même déjà vu dans des stories retourner des cargaisons de pommes de terre en disant non, c'est pas la qualité qu'on a convenu, je te la rends. Et il rend des palettes à des producteurs.
Ouais, c'est comme la pub, les plus anciens connaissent la pub, il n'y a pas de fêlé chez Lustucru. Ouais.
C'est ça, c'est pour les anciens aussi.
Voilà. Bon, et puis, alors il y a aussi des smash burgers.
Il fait des smash burgers. Mmh. Et je lui ai dit, Samir, j'ai peur de dire ça, mais je pense que ton smash, c'est le meilleur smash que j'ai goûté. Il m'a dit, mais c'est normal, parce que je le fais. Sur une vieille plaque en fonte des années 80.
Et oui.
Et ça ramène.
C'est
le
comme
goût.
Les woks. Voilà. Il faut que les woks soient un peu noircis par l'âge.
Voilà.
Pour,
et
pour,
en fait,
pour avoir un bon goût de wok, ouais.
T'es pas très loin de la radio, donc je t'invite vraiment à y aller. Tu viens de ma part. T'inquiète pas, Manu, il te mettra bien. Et pour ceux qui savent pas, le smash, c'est la réaction de Maillard. Donc c'est quand le chaud le froid de la viande.
On écrase la viande sur la plancha.
Sur la plancha chaude
et ça rend et savoureuse.
Voilà, ça crée une caramélisation. Exactement. Et sur cette plaque à Samir, c'est un autre goût. Dans l'américain aussi, C'est exceptionnel.
Bon, eh ben on va donner l'adresse. Hein. Il y a même deux adresses. Hein. Il est 80 avenue de la Cour de France à Juvisy. Il est 84 rue Pierre Timbaud. Non, ça c'est vous.
Ça c'est
vous chez Maison Azalée. Je dis des bêtises.
Et là, il ouvre en face de la mairie de Vitry-sur-Seine. Donc, il ouvre un point physique cette fois-ci.
Ouais, j'ai perdu ma fiche. On va donner juste l'adresse. Et puis on parlera. Tu vas être obligé de revenir pour parler de ça on time parce que là, on n'a plus le temps. Le mercredi et le jeudi, c'est place du théâtre Jean Villard à Vitry. Ça. Et vendredi, samedi, dimanche, 11 rue Eugène Hénaff, en face du 11 rue Eugène Hénaff. De toute façon, vous allez sur l'Instagram friterie-8a-8vitry et vous avez toutes les infos. Et bah, vous pouvez y aller dès ce soir. Peut-être que vous y croiserez Oumout.
Il fait des barbecues pendant le ramadan de 19h à 2h du matin.
Ok, et puis tu reviens au Mout très vite pour parler du Sound Thai dans le Val-de-Marne également.
Avec plaisir.
Allez, on se retrouve demain et puis restez sur Beurre FM pour les programmes du Ramadan. Ramadan Inco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali ainsi que leurs invités. À demain, nous on se retrouve. Ciao, bye bye.
Retrouvez chacun son retour tous les jours de 16h à 17h sur Beurre FM et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.